Amis auditeurs, bienvenue à vous tous. Nicole à ce micro, je suis heureuse de vous retrouver pour la sainteté au quotidien. Nous allons poursuivre notre marche de carême vers Pâques avec la parole de Dieu, vivre la sainteté avec la parole de Dieu, bien évidemment. Et noblesse oblige, nous commençons avec le centre même de ce qui est le bon chemin, les 10 commandements, les 10 paroles. Nous avons vu dans les précédentes émissions donc l'importance aussi pour Jésus de se retirer au désert. Nous avons revu ce moment du désert qui nous renvoie aussi au passage de l'Exode où effectivement, le peuple d'Israël se retrouve également dans le désert. Dieu le conduit dans le désert pour l'amener en terre promise et va lui faire le don de la loi, de son alliance, ces 10 paroles qui ne sont pas des ordres, des préceptes à accomplir de toutes ses forces, mais qui sont un chemin à parcourir pour découvrir et apprendre à aimer. Le rabbin Alain Waknin donne cette définition, les 10 paroles, c'est « aime ton autre ». Et surtout le premier commandement, « aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces, de toute son âme et ne pas avoir d'autres idoles. Hein, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu n'auras pas d'autres dieux. » Eh bien, ce premier commandement, nous l'avons vu. Nous avons vu aussi à travers différentes réalités, à travers les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, le vrai culte que nous devons à Dieu. Donc l'adoration, la prière, le sacrifice, les promesses et les vœux. Également le devoir social de religion, le droit à la liberté religieuse. Et puis cette affirmation, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc le premier commandement qui interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Donc pas d'autre Dieu que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Et il va proscrire la superstition et l'irréligion. La superstition qui représente en quelque sorte un excès pervers de religion et l'irréligion qui est un vice opposé par défaut à la vertu de religion. Alors pour cela on avait vu donc bien sûr la superstition, on en a déjà parlé. L'idolâtrie, on a vu comme c'était très facile d'idolâtrer aussi bien des choses que des personnes, c'est-à-dire leur conférer le pouvoir, le même pouvoir que Dieu, leur donner cette même capacité. Or, le seul qui nous sauve, c'est le Dieu d'Israël, d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Toujours par rapport à cette obligation, une obligation qui est une obligation d'amour, qui est pour notre bien, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant moi, il y a la divination et la magie. Je vous l'avais annoncé hier. Donc Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. D'ailleurs, l'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Alors là, c'est très clair, je vous cite texto comme ça, il n'y aura pas de coup de fil étonné. Mais je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, donc c'est la doctrine de l'Église. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons. Évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, donc l'espèce de spiritisme aussi. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont donc en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Et la crainte de Dieu, entendez-le pour simplifier, entendez-le non pas comme la peur d'avoir un châtiment, mais la crainte de Dieu, c'est-à-dire la révérence qu'on lui doit parce qu'il est Dieu, et surtout parce que nous ne voulons pas être séparés de lui, la peur surtout de le perdre, ou d'être coupés de lui. Donc toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce, écoutez bien, pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Alors là, désolé, mais je lance un pavé dans la mare, comme on dit. Mais je répète la phrase, toutes les pratiques de magie, donc comprenez aussi magie blanche, ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ce qui veut dire que même une pratique que nous connaissons bien en Corse, je citerai l'autre, ou tout ce qui est fait appel à des rebouteux, on coupe la sciatique, etc., on arrive à endiguer certains mots, eh bien tout cela est contraire à la vertu de religion, fût-ce même pour procurer la santé. Alors vous dites, mais comment c'est possible, puisque quand même Jésus guérissait les malades, etc. Attention, le pouvoir même de guérison, c'est Dieu qui le donne. Et pour revenir un petit peu sur l'autre, il faut savoir que les prières, je sais que beaucoup vont dire, mais les prières que nous récitons sont des prières chrétiennes, bien sûr. Mais il faut savoir que la pratique de l'autre, elle remonte bien avant le christianisme, bien avant que le christianisme même s'implante en Corse. Il y avait des pratiques païennes où on invoquait des divinités pour guérir de certains maux. Et lorsque la Corse est devenue chrétienne, eh bien, on a changé tout simplement ces prières païennes. On a changé le nom, entre guillemets, si vous voulez, d'une manière un peu sommaire. On a changé le nom des dieux païens et on a mis les prières chrétiennes. Donc, on a fait une sauce un petit peu à notre mode. Mais donc, qui invoque-t-on? Sérieusement, je sais que beaucoup aussi le font avec de très très bonnes intentions, ça ce n'est pas à rejeter, ce n'est pas à juger bien évidemment, mais attention à ce que nous dit l'Église, ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Alors vous me dites, oui mais nous c'est pas le cas, eh bien sachez que parfois, dans la consultation même de voyance, il est demandé de faire des sortilèges, des maléfices. Et ne croyez pas, mais ça existe. Il y a des gens qui vont jeter des maléfices sur des personnes ou sur des familles. Ce n'est pas de la pure invention. Regardez que l'Église ne dit pas que tout ceci n'existe pas ou n'est pas vrai, mais elle dit que ceci est dangereux, très dangereux, et que c'est contraire à la vertu de religion, puisque c'est un manquement au premier des commandements. C'est dire à des puissances qui ne sont pas Dieu, quels sont Dieu dans notre vie. Bon, en plus, je vais vous donner un autre exemple. La personne qui a recours à l'autre, on ne peut pas dire qu'elle guérit. C'est pas vrai. Elle guérit momentanément. Mais généralement, ce sont toujours les mêmes personnes qui redemandent à ce qu'on leur fasse les prières de l'autre. Donc, ce qui veut dire que le mal est toujours récurrent et n'est pas guéri définitivement. Donc là, on devrait déjà s'interroger. Très souvent, pour ceux qui se font couper, c'est l'expression, donc j'utilise ce qui est dit, qui se font couper la sciatique. Très souvent, lorsque ce mal est enlevé, parce que ça, bien sûr, ça peut marcher, bien évidemment. Mais, que se passe-t-il? Peu de temps après, c'est une autre douleur qui arrive. Alors, qui ne se situe pas au même endroit, mais c'est autre chose qui arrive. Donc, ça veut dire que le mal est simplement déplacé. Il n'est pas guéri définitivement. Alors, pour dire L'évêque, dans une homélie un jour, avait dit une phrase très juste. Il avait dit « Bien sûr que ça marche, pour un temps. » Moi, je rajouterais « pour un temps, ça marche. » Mais attention, ce sont des portes qui sont ouvertes au monde occulte, et là, peuvent s'infiltrer aussi des esprits mauvais. Le port, par exemple, des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. On peut avoir, bien sûr, des médecines dites traditionnelles qui sont bonnes. Attention. Mais elles ne légitiment pas l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir heurtés parce que c'est quelque chose qu'on a reçu de nos grands-mères, etc. Mais écoutez bien. Ce que nous dit le père François Dominique dans un article qu'il avait publié dans la Voix de Saint-Antoine à cette occasion, voilà, cet attachement à certaines pratiques traditionnelles à connotation magico-thérapeutique qui sont très présentes sur l'île. Alors, il y a l'Ochu, Iermi, Uvogu, Ebrujadure, Uzole, Uzang, Uneustortu ou encore l'Imbuscada. Nous savons que notre île baigne depuis la nuit des temps dans un océan de légendes, de croyances, de mythes et de rites. Chaque région, chaque village ont les leurs, entretenus comme un héritage d'une génération à l'autre. Il y a une étude réalisée par Madame Pierrette Bertrand Rousseau qui s'appelle « Île de Corse et magie blanche, étude des conduites magico-thérapeutiques en Corse », publication de la Sorbonne en 1978. Alors ces pratiques remontent à des traditions païennes. On les retrouve avec des variantes dans toutes les régions de France, surtout dans le rural, et plus particulièrement dans tout le bassin méditerranéen. Autour de la date du solstice d'hiver, le monde païen célébrait une fête particulière, le Sole Invictus, où l'on disait qu'en ce jour du 25 décembre, les puissances divines ou divinités communiquaient aux hommes leur pouvoir, pouvoir magique bien sûr. Avec l'arrivée du christianisme, on a pensé alors naïvement à adapter ces rites à la religion catholique en remplaçant les personnages aux divinités mythologiques par des invocations à la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste ou encore la Sainte Famille, attribuant à ces formules magiques le titre et l'étiquette de prière. On pensait ainsi que cela suffisait pour faire entrer ces pratiques d'origine païenne dans la pratique chrétienne. Or, celles-ci conservent le caractère d'incantation qui est relié à un rituel spécifique de magie, dite magie blanche. Comme tout le monde le sait, ces personnes, qu'on appelle les signadores, font ainsi disparaître le mauvais œil, les brûlures, la douleur de l'apparition des dents chez le nourrisson, le zona, les vers, etc., d'une façon quasi instantanée. Mais non pas la cause de cette douleur, qui demande généralement à être soignée. Alors bien sûr, ce sont des personnes souvent de bonne foi qui sont croyantes. Elles prient, elles font prier les autres. Dans leur maison, on retrouve généralement beaucoup de signes religieux. Donc le père François Dominique dit bien sûr qu'il n'y a pas un jugement sur les personnes, c'est juste un éclairage qui est donné. Le souci n'est pas de condamner, mais le père François Dominique disait dans son article, et je le cite, « Mais mon souci donc n'est pas bien sûr d'allumer des bouchers ou de condamner, mais en tant que prêtre chargé par l'évêque du ministère de l'exorcisme pour le diocèse, c'est d'informer, de mettre en garde du danger de ces pratiques et du caractère pécamineux qu'elles représentent. » Qu'est-ce que la magie ? La magie, c'est un art fondé sur l'existence d'êtres ou de pouvoirs surnaturels et de lois naturelles occultes permettant d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. Comment agit-elle ? La magie concerne soit l'art magique, l'art occulte, soit des procédés magiques, des techniques occultes, utilisation de formules secrètes, soit des effets magiques, puissance mystérieuse. Elle agit par l'intermédiaire d'entités, des anges ou esprits, présentes dans le monde occulte. Et celles-ci ont un pouvoir sur la matière et les lois naturelles et peuvent être utilisées lorsqu'elles sont invoquées par quelqu'un ayant été initié selon un rituel propre, accompagné d'une formule spécifique et secrète. Il faut savoir également que la magie blanche, enfin que la magie n'a pas de couleur en fait, seule l'intention de celui qui la pratique compte. Dans nos sociétés, le blanc est rattaché à la pureté, le bien, le calme, et à l'opposé, du noir auquel on prête des attentions, des attributs contraires, le mal, la haine, la mort, le rouge qui est rattaché à la passion, à l'amour, la sexualité. Dans cette logique, on considère que la magie noire n'œuvrera que pour le mal, la magie blanche que pour le bien et le rouge que pour l'amour. Dans la pratique, les choses sont tout autres. On peut faire le bien en faisant appel à des forces dites maléfiques, tout comme on peut faire le mal avec des forces dites bénéfiques. Seule l'intention du « mage » avec un grand M compte et le passage de l'une à l'autre forme de magie est très subtil. Les grands praticiens de la magie et de l'occultisme le reconnaissent ouvertement. Notamment Anton Svandor Lavey, qui est fondateur de l'église de Satan, qui a aussi publié un ouvrage, La Bible satanique. Lui-même affirme qu'il n'existe qu'une seule magie, mais plusieurs manières de s'en servir. Ainsi, certains vont s'en servir pour punir et d'autres pour guérir. Selon la Bible, sataniste, il n'existe pas deux formes de magie. La magie n'est pas manichéenne, avec une bonne et l'autre non. Il n'y a donc pas deux formes de magie, l'une bonne, au service du bien et de la santé, une mauvaise, au service du mal, sous différentes formes. Toute magie est mauvaise et dangereuse, car toutes fonctionnent dans le même univers et avec les mêmes esprits. Raison pour laquelle la Bible, et à sa suite l'Église, condamne sévèrement, de la même manière, toute forme d'occultisme, magie, divination, spiritisme. Quelques exemples. Dans le Lévitique, vous ne pratiquerez pas la magie ni divination ni incantation. L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromane ou devin, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux, c'est dans le Lévitique. Dans le Deutéronome, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu de l'occultisme son fils ou sa fille qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Dieu, à ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tâche vis-à-vis du Seigneur ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don du Seigneur ton Dieu. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 14, pour ceux qui voudraient reméditer ce passage. Ces lois montraient clairement que Dieu ne voulait pas voir son peuple pratiquer la magie. Et cet extrait, donc tiré, je vous le rappelle, du catéchisme de l'Église catholique que je vous ai lu précédemment, les numéros 2115 et 2118, toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques, bien sûr, sont plus condamnables encore lorsqu'elles s'accompagnent d'une intention de nuire. Le port des amulettes est lui aussi les porte-bonheurs, les fameux porte-bonheurs, est lui aussi répréhensible. Attention, nous nous attachons à des choses qui ensuite peuvent nous dominer, ce par quoi nous allons être dominés. Saint Augustin, pour sa part, distingue dans la magie une forme plus détestable, qui est la goétie, la sorcellerie, et une forme plus honorable, la théurgie, la magie blanche, mais il condamne déjà toutes les deux comme contraires au premier commandement, « Tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte ». S'agit-il d'un pouvoir de guérison qui viendrait de Dieu? Parce que le fondement, c'est ça. Beaucoup vont dire, mais puisqu'on peut guérir, etc. Comme je vous l'ai dit, attention, et comme l'a dit aussi très bien le Père François Dominique, non, il ne guérit pas en profondeur. Il fait disparaître certains effets, mais il ne guérit pas dans le profond, puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui redemandent plusieurs fois ces pratiques. Il y a bien sûr des charlatans. Cependant, après une visite chez une signador ou un guérisseur qui agit avec succès dans un domaine précis, par exemple conjurer les brûlures ou couper le feu, les onats, arrêter les hémorragies, faire disparaître les verrues, les vers ou supprimer la douleur provoquée chez les nourrissons par la sortie des dents, il est fréquent de constater qu'il s'est passé quelque chose. Au minimum, la suppression en tout cas de la douleur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on retourne les voir en cas de besoin. Mais il ne s'agit pas d'une guérison, mais la disparition de symptômes organiques. En quelque sorte, il s'agit d'un déplacement de symptômes, voire d'un transfert sur la personne du praticien, au prix d'ailleurs de conséquences se situant à d'autres niveaux. Sur celui, donc sur le praticien, sur la personne qui enlève le mal, eh bien, elle va le prendre sur elle aussi. Et on le constate d'ailleurs fréquemment par la suite, il peut y avoir des conséquences psychiques ou même spirituelles. Car encore une fois, ce sont les entités occultes qui agissent, non pas la personne elle-même, ni telle ou telle formule apprise par cœur et scrupuleusement récitée. La preuve en est que si le guérisseur n'a pas été initié selon des règles bien précises, cela ne fonctionnera pas. Ce qui prouve que l'efficacité ne vient pas d'un don personnel, mais bien d'une chaîne occulte transmise d'une personne à personne. Donc il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine. Jamais la guérison divine n'a cet automatisme. Elle n'est pas soumise à la volonté de l'homme, mais au contraire, elle est soumise à la volonté de Dieu. Il s'agit donc de la conjuration magique des maladies opérée par magie blanche. La magie donne toujours immédiatement le petit bien recherché, mais provoque toujours un plus grand malheur ailleurs, un plus grand mal. Il y a donc une confusion qui peut provenir de l'ignorance des uns et des autres. Cette soi-disant domestication des énergies occultes a toujours des effets négatifs qui peuvent être parfois très lourds, car ce genre de pratique ouvre nécessairement des portes aux entités négatives. Notre être spirituel ou astral est comme disposé à les recevoir, sans pouvoir ni les maîtriser ni les filtrer, d'où les phénomènes paranormaux de médiumité, d'infestation ou d'agression démoniaque que peuvent ressentir les personnes qui pratiquent la magie ou toute autre forme d'occultisme, comme l'astrologie, la voyance, les cartes, la pendule. D'où la parole d'ailleurs de notre évêque, Mgr de Germay, au cours d'une homélie de la messe d'ordination du Père René, c'était le 14 juillet 2012, « Toute pratique magique augmente en nous l'emprise des esprits mauvais. » Ce sont des ouvertures des terrains, des canaux que nous ouvrons. Le charisme de prière pour les malades existe dans l'Église. Il n'a rien à voir avec la magie. La confusion est grande entre l'action des guérisseurs et l'œuvre de guérison qui est accomplie par Jésus. C'est pourquoi il est important de proposer quelques balises pour mieux éclairer les différences entre les pratiques de magie blanche et la vraie guérison divine. Le charisme de prière pour les malades n'est d'abord pas centré sur la santé des personnes, mais il accompagne la prédication de l'Évangile. Dans l'Évangile de saint Marc, à la fin, Jésus ressuscité envoie ses apôtres en mission. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Jésus ordonne d'abord de proclamer la parole, puis il invite à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Les signes accompagnent donc l'annonce de l'Évangile. Ils n'existent pas seuls, mais lorsque l'on proclame le salut en Jésus-Christ. Celui ou celle qui a reçu le charisme de prière pour la guérison des malades n'est pas un guérisseur. Il prie pour les malades et Jésus guérit ceux qu'il veut. Le plus souvent, cette prière se déroule publiquement, au cours d'une assemblée de prière ou après la célébration de l'Eucharistie. La place de la communauté de l'Église est importante. C'est à l'Église, à travers l'un de ses membres, qu'est donné le charisme de guérison. C'est en Église qu'il s'exerce, et non pas d'abord en privé de façon individuelle. Cette réflexion a pour but de nous aider à faire le tri, hein, et le Père François Dominique qui conclut en disant « Je ne peux que conseiller aux chrétiens qui posséderaient des pouvoirs, entre guillemets, mais qui ne sont pas vraiment convaincus de leur origine occulte, d'avoir le courage de les remettre au Seigneur Jésus dans la prière et la confession. Si cela ne vient pas de toi, enlève-le de moi. » Voilà. Nous vivons une période de grande confusion. Il est bon de discerner où agit l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, pour mieux l'accueillir et éviter également de nous fourvoyer dans des pratiques magiques. Nous savons aussi que nous pouvons demander la guérison, mais seulement à Jésus et à travers la prière de son Église. Voilà mes auditeurs, on s'est arrêté un peu plus longtemps, voilà, sur ce point important, me semble-t-il, toujours en lien avec le premier commandement, vous voyez, donc il y a de quoi faire un examen de conscience vraiment très fort. On n'a pas encore terminé, vous allez voir, on parlera de l'irréligion, et puis de l'athéisme, bien évidemment, et puis aussi de cette histoire de ne se faire aucune image, donc on reviendra là-dessus, avant de passer au deuxième commandement. Voilà, mes auditeurs, pour tous ceux aussi qui sont peut-être touchés aujourd'hui par ce dont nous avons parlé, par rapport à la magie et à la divination, eh bien, sachez que vous pouvez toujours venir consulter un prêtre, et voir faire le tri, comme le disait si bien le père François Dominique, de pouvoir discerner, que quelqu'un d'église, c'est-à-dire un prêtre, puisse vous aider à discerner véritablement dans toute cette confusion, hein, de bonnes intentions, mais qui parfois font appel à des esprits qui ne concourt pas au plan de salut de notre Seigneur, qui est l'unique, le seul Dieu.